Bonjour et bienvenue à Portrait Vivant, l'émission radio qui esquisse un tableau en mouvement de la communauté artistique de l'École d'art de Sutton. Ensemble, allons à la rencontre des artistes, des jeunes créateurs et des œuvres qui façonnent cette institution incontournable du paysage culturel de l'Estrie. Je m'appelle Ayona, artiste en art visuel. Mon parcours m'a menée aux quatre coins du monde, guidée par une quête d'apprentissage et de rencontres. J'ai fini par m'installer ici, en Estrie, où je découvre une véritable boîte au trésor de personnes engagées, passionnées par leur travail, avec des valeurs d'entraide et de coopération. Aujourd'hui, nous abordons un thème central de notre série, la communauté. Nous découvrirons comment la coopération et l'entraide permettent la floraison de l'art, la culture et l'éducation dans notre belle région, offrant ainsi de précieuses opportunités d'apprentissage aux jeunes de notre communauté. Karine Côté-Andretti est auteure d'un livre « Port d'attache », une œuvre sur l'amitié et l'importance de la communauté. J'ai eu le plaisir de la rencontrer lors du petit salon du livre, où j'étais captivée par sa présentation sur sa nouvelle œuvre. On l'écoute.
Donc, Karine Côté-Andretti, je suis autrice. Je suis aussi journaliste, recherchiste et scénariste. Donc, je travaille dans les médias, beaucoup de balados et d'émissions de télé-documentaires. Mais sinon, principalement, je suis aussi maman de 3 enfants. C'est parti d'un constat super personnel. Je venais d'avoir mon premier enfant, je vivais une certaine solitude, je réalisais que mes amitiés n'étaient plus les mêmes, puis j'étais pas satisfaite de la tournure des événements, en fait. Puis j'en parlais un peu autour de moi, mais j'avais l'impression que c'était comme quelque chose qui était très normalisé, oui. Voire qu'il fallait se résigner. Ben, c'est comme ça, quand on devient adulte, on a moins de temps pour nos amis, puis c'est tout. Mais je me suis dit, c'est impossible, c'est une catastrophe non naturelle, on n'est pas fait pour vivre de façon aussi isolée. Donc, ces réflexions-là qui m'habitaient beaucoup, je me suis mise à en parler à voix haute tranquillement, mais j'ai réalisé que les cours venaient vraiment beaucoup. Les gens vivaient cette solitude-là, cette insatisfaction-là. Donc, je me suis mise à... Le projet est devenu plus grand de moi assez rapidement. Là. J'ai commencé à parler à des experts en anthropologie, en sociologie, en sciences politiques, en neurosciences, en psychologie. J'ai récolté plusieurs témoignages aussi donc pour créer un ouvrage qui, à mon sens, traite l'amitié avec le sérieux que ça mérite d'être traité. Une communauté, pour moi, c'est surtout un endroit où se sentir appartenir. Je pense que c'est vraiment ça, le secret. Je pense qu'il y a autant quelque chose qui vient. Puis, c'est pas obligé d'être des personnes avec qui on vit des amitiés profondes, notre communauté. Mais c'est au moins des personnes qui vont être là pour être un certain filet social. Des personnes qui vont être là aussi dans notre quotidien. Ces personnes-là, témoins de notre existence, sont importantes. On peut développer un lien, même s'il n'est pas super profond, ça va pas être moins significatif pour autant. Puis, je pense vraiment que le sentiment d'appartenance, puis se sentir vu, puis considéré, c'est quelque chose qui va nous sortir de la solitude. Mais vraiment, ça vient apporter un certain soutien parce que oui, notre capital social, c'est vraiment, il y a vraiment eu de l'érosion à travers les années, puis on vit sans village. Là. Donc, on essaie de reconstruire ça. Puis, c'est pas par nos familles élargies que ça passe parce qu'on est de moins en moins en contact avec ces personnes-là, selon les dernières données. Mais il faut que ça passe par au moins notre communauté. La proximité géographique est aussi importante. Quoique ces communautés-là, je tiens à le dire, peuvent aussi exister dans d'autres espaces. Par exemple, en ligne. Il y a beaucoup de communautés en ligne qui sont assez salvatrices pour certaines personnes qui cherchent des gens comme eux autres, comme elles, en fait. C'est ça, exactement. Je pense aussi beaucoup aux personnes qui vivent dans des... Tu sais, qui sont peut-être... vivent des oppressions dans la société, tu sais. Des personnes qui vont chercher des personnes qui vivent les mêmes choses qu'elles, qui peuvent vraiment comme résonner. C'est vraiment pas négligeable de pouvoir se sentir vu comme ça par d'autres. D'entretenir des relations saines et significatives, ça va être le premier indicateur d'une vie longue et heureuse. Donc, ça a vraiment des impacts concrets sur la santé physique. Là. Ça a été démontré, là, ça agit comme un vaccin pour notre système immunitaire. Ça va augmenter nos chances de guérison de cancer, entre autres. Ça va nous donner plus de courage aussi. Donc, j'ai un chapitre complet sur les privilèges puis les bénéfices que ça octroie pour notre santé physique. Là. Puis, si on pense que c'est... C'est ça aussi que je me suis demandé, c'est pourquoi d'abord on néglige ça à ce point-là?
Oui, c'est ça.
Je pense que c'est ça, c'est parce qu'après ça, on s'en va essayer de combler ça ailleurs dans quelque chose qui est plus matériel. Je sais pas, tu sais, mais vraiment, ça a tellement de bénéfices, puis on en parle si peu, puis il y a une statistique que tout le monde a déjà entendue, en fait, ça a tellement circulé, mais c'est comme que, en fait, les impacts de la solitude sur la santé, c'est comparable à fumer 11 paquets de cigarettes par jour.
Un énorme merci à Karine Côté-Andretti qui m'a vraiment ouvert les yeux à un nouveau sens de la communauté et de l'amitié avec son livre « Port d'attache ». On va maintenant écouter Les Éphémérides, un groupe local que vous connaissez peut-être sous le nom « Barefoot on Grass ».
S'enfuit tel un cordeau et je m'ennuie de nos rêves les plus beaux. Il se fait voler, on se fait tous prendre, traversant nos vies sans jamais nous attendre. S'achèvent les saisons, cycle infini, nouvelle itération, où on n'a rien donné, mais où on veut tout prendre, en attendant l'été, en songeant à descendre. Souvenirs s'entremêlent de ces histoires qui nous rappellent que nos souvenirs s'entrelacent de ces moments que l'on embrasse, de ces moments où l'on s'embrasse. Nos souvenirs s'entremêlent de ces histoires qui nous rappellent que nos souvenirs s'entrelacent, de ces moments que l'on embrasse, de ces moments où l'on s'embrasse.
J'ai rencontré Alain Auger, compositeur renommé pour ses musiques de films, dans le jardin de l'École d'art de Satine. J'ai été super inspirée par notre discussion sur l'importance de l'esprit communautaire et collaboratif dans son propre parcours artistique.
Ben, mon nom est Alain Auger, je suis compositeur de musique de film, principalement. Je fais ça depuis les années, je sais pas, 1997-18. En fait, j'ai commencé avant, quand j'étudiais en musique avec la troupe de théâtre au Cégep Saint-Laurent. Puis ça a été un déclic, parce que je savais pas exactement quoi faire en musique. J'avais des multiples intérêts au niveau des styles musicaux, au niveau des instrumentations et tout ça. Puis après ça, travailler aussi avec d'autres médiums, pour d'autres médiums que juste la musique, mettons théâtre ou l'image ou la danse. Ça ouvrait les perspectives créatives, créatrices en tout cas. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis j'avais pas de limite aussi au niveau des genres musicaux, fait que ça a été un déclic où ce que ça a été d'un naturel de d'aller dans cette direction-là au niveau artistique. Puis après ça, j'ai fait ça quelques années. Puis après ça, la scène me manquait. Je viens aussi du milieu de la chanson, évidemment comme source primaire. Les Beatles, puis après ça, bon, plein d'autres groupes. Fait que cet univers-là me manquait, puis là, j'avais commencé à composer des chansons. Je cherchais une voix avec qui collaborer dans cet univers-là. Puis, par un hasard, j'ai rencontré une chanteuse inuite, en fait, qui venait d'arriver à Montréal, qui était pas chanteuse comme connue, mais elle savait chanter, elle avait une belle voix, un super feeling. Elle s'appelle Élie Sapi, Isaac. Fait qu'on s'est rencontrés par hasard, puis on a eu un coup de foudre amical et de goût artistique, musical et tout ça. Puis on a parti à un groupe qui s'appelait Taïma. Fait qu'on a roulé ça on s'est connus en 2000, on a commencé concrètement 2001-2002. Puis on a sorti notre album en 2004. On avait pris 2003 pour l'enregistrer. Puis on a roulé ça jusqu'en 2007. Puis après ça, je suis revenu à temps plein en musique de film. Puis ma rencontre avec Elisapi m'a amené à ouvrir le créneau, mettons, les connexions avec le monde autochtone et inuit. Et donc, je me suis mis à faire après ça plein de projets autochtones de différentes nations, en fait, et inuit, soit en fiction ou en documentaire. Fait que j'ai fait ça beaucoup. Puis j'ai fait aussi, je suis très attiré par tout ce qui est mouvement social, environnement, écologique et tout ça. Fait que j'ai fait beaucoup de projets avec Hugo Latulippe aussi, en documentaire.
Et donc, tu as collaboré avec tellement d'artistes différents. Comment est-ce que ça t'enrichit ta pratique artistique?
Ben pour moi, c'est des rencontres humaines. Tu rencontres plein de monde de différentes provenances. Si t'es ouvert, ça t'enrichit, même sans le rapport de la musique. Fait que c'est sûr que, mettons, quand tu fais des films documentaires sur des sujets sociaux, environnement, écologique ou tu sais même des fois économique, ça t'enrichit en tant que personne, ça t'enrichit en tant qu'artiste. Ça t'ouvre des nouveaux horizons tout le temps. Fait que c'est toujours ce côté-là relationnel. Je préfère beaucoup plus faire ça qu'être toute seule dans mon coin à faire, mettons, seulement le « je me moi » de ma musique, qui, je pense qu'à un moment donné, devient plus limitatif, où tu commences peut-être à tourner en rond avec toi-même, tu sais, avec ton propre nombril, tout ça. Puis c'est aussi une des raisons que, tu sais, j'ai toujours voulu des enfants dans la vie. Puis quand ça a été le temps d'en avoir, tu sais, je pense que j'en avais marre d'être moi, ma vie, ma carrière, le « je me moi », puis d'aller au prochain niveau. Puis travailler avec les peuples autochtones, les Inuits, une autre culture. T'sais, j'ai beaucoup voyagé dans la vie. J'ai vécu un peu en Afrique. J'ai passé beaucoup de mois en Amérique du Sud. J'ai cet enrichissement-là qui est constant d'empêcher la stagnation. Il faut être en relation. Moi, je crois beaucoup à le fait qu'on est des animaux grégaires. Je crois au « nous » beaucoup plus qu'au « je ». Le « je » est important, c'est évident. Là. Quand je compose, je suis seul. Mais après ça, faut transcender le « je » puis c'est le « nous ». C'est qui compte toujours le plus.
Donc, c'est encore vraiment important pour toi, la communauté.
Ah, tellement.
Tu es à Sutton maintenant, tu es dans une nouvelle culture, créative, vraiment intéressante.
Complètement. Puis quand je suis arrivé ici, c'est un hasard de la vie. J'ai retrouvé des anciens amis ou connaissances de longue date qu'on s'était perdu de vue, parce qu'ainsi est la vie parfois. Puis là, on se retrouve ici. Puis là, depuis que je suis ici, j'en ai parlé à du monde. Il y a du monde, ça les a inspirés, ils sont venus ici. Bon, ici, on est choyé. Sutton, tout le monde le dit, je pense qu'au Canada, on est au 6e-7e rang de la plus grande communauté artistique. Le bassin, tu sais, c'est assez exceptionnel. J'avais envie de nature, j'avais envie d'être dans un village. Parce que quand j'étais à Montréal, je vivais presque comme dans un village, tu sais, j'étais dans le cœur de la petite patrie, puis je rayonnais autour avec le marché Jean Talon et tout ça. Mais j'avais envie de plus de verre, moins de béton, plus d'oiseaux, moins d'avions, tu sais, au niveau sonore et tout ça. Puis ça s'est passé naturellement, par chance aussi, par coïncidence. Puis ici, la communauté artistique est riche. On est chanceux, tu sais, de s'éloigner du bassin culturel, évidemment, qu'on identifie toujours montréalais.
Ouais.
Mais d'arriver en région, puis d'avoir autant de ressources artistiques diversifiées, de ressources écologiques, de mentalité, environnement, écologique, tout ça, au niveau de l'alimentation aussi, tu sais, dans tout ce qu'on fait localement. La qualité, fait que c'est comme le meilleur des mondes d'arriver en région, puis d'être stimulé autant à tous les égards, même au niveau politique, au niveau, puis de connecter, puis fait que, tu sais, j'ai un bassin ici de connaissances, de plein de monde qui en avait, pour plein de raisons différentes ou similaires, marre un peu de la ville.
Ouais.
Fait que là, on se retrouve ici avec l'école d'art que je trouve hallucinante, de créer un hub, un centre culturel. C'est exceptionnel pour moi, Sutton, en tout cas, de vivre ça. Richesse humaine, richesse artistique, écologique, à tous les niveaux. Il y a beaucoup de monde qui aspire à ça, puis je pense que ça se passe ici.
Oui, ça se passe ici, puis je pense que tu as complètement raison, ça enrichit tellement la vie, les gens, la créativité, et des places comme l'École d'art de Sutton aussi qui rassemblent toutes ces personnes-là. J'ai rencontré
tellement
de personnes à travers l'école.
Tellement.
Oui, c'est vraiment...
Puis diversifié, tu sais, ici, il y a des expositions, show de musique, show de danse, le salon du livre, tu sais, c'est génial, tu sais.
C'est pas de hiérarchie.
Pas du tout.
C'est ça, c'est comme toutes les portes sont ouvertes. Là.
Complètement. Puis au lieu d'hiérarchie, il y a beaucoup plus de collaboration.
Ouais.
C'est cette affaire-là, justement, de de ressources, hein, parce qu'on est, on peut pas à soi seul être toutes les ressources. Puis là, c'est des connexions, puis c'est des entraides, c'est du partage. Puis il y a même pas des fois de question d'argent là-dedans. C'est comme c'est une question de bénévolat, de, tu sais, de se rendre des services entre, puis de se dépanner des fois, puis tout ça, parce que chacun maîtrise ce qu'il fait. Vraiment plus de la collaboration que de l'hiérarchie. Là, j'ai jamais senti ça ici. De, c'est beaucoup plus collaboratif, entraide, simplement, tu sais, naturellement.
Est-ce que tu as pu collaborer avec des jeunes?
Ben en fait ici dans le coin, moi j'adore les relations intergénérationnelles, là. Puis j'adore les jeunes beaucoup, de tout jeune à les générations qui est peut-être juste avant moi là, tu sais. J'aime ces ponts là, puis j'aime connaître leurs mœurs, leur culture, leur mentalité, tout ça. Ce qui est génial avec mettons les camps de jour, axés vers la culture et les arts. J'ai une amie mettons qui était venue enseigner le cinéma. Puis je suis venu faire, je pense que c'est deux fois que j'ai fait ça, venir parler, mettons, de mon métier aux jeunes. Ouais. Tu sais, pour démystifier, c'est quoi le cinéma? Comment on fait du cinéma? Bon, le montage, moi, je suis venu, je fais aussi du son en post-production parfois, puis la musique. Fait que je suis venu parler des deux, l'importance. Ouais. Fait que, tu sais, là, les jeunes, des fois, qui se rendent pas compte de toute l'importance d'un... Ben, la plupart des gens se rendent pas compte de l'importance de toutes les arts attachés à faire un film. En post-production, une fois que le film est tourné et monté, l'ajout du son, l'ajout de la musique, l'ajout du mix. Fait que ça, j'ai fait ça avec les jeunes ici, là, puis c'est capoté de voir les films qu'ils font en genre une semaine ou deux, là, les résultats que ça fait. C'est présenté ici après ça aux adultes. C'est fantastique. C'est de partager la connaissance que, mettons, moi j'ai, puis j'ai encore énormément à apprendre, là. Moi, en tout cas, quand j'étais jeune, j'aurais adoré avoir eu cette transmission-là en proximité, tu sais, puis tu peux être en région puis avoir accès à cette connaissance-là puis à cette transmission-là. Pas obligé d'être à Montréal ou être dans des centres, tu sais, culturels, là. Fait que, ouais, ça a été mon petit grain de sel ici avec les plus jeunes générations.
Merci, ouais, c'est tellement riche, en fait, ça me donne plein de perspectives nouvelles. Fait que j'apprécie ce moment avec toi.
Ça fait plus que plaisir.
Quel beau moment passé dans le jardin de l'École d'art de Sutton à discuter avec Alain Auger au sujet de son parcours artistique, de la communauté et de la créativité. On va maintenant écouter Silence, duo Taïma, Elisapie Isaac et Alain Auger. À la découverte de la communauté, on est allé à la fête des générations à Sutton pour participer à des activités créatives avec les jeunes au kiosque de l'École d'art et pour rencontrer des membres de la communauté. J'étais accompagnée par mon fils Nour qui a fait une entrevue avec Patrick Simard qui dirige un groupe de percussion à Sutton. On écoute l'entrevue.
De toutes les variétés de musique, pourquoi t'as choisi la musique africaine?
C'est une super belle question. Puis c'est une musique puis une culture qui me parle profondément après avoir voyagé plusieurs fois en Afrique de l'Ouest, au Bénin, Togo, Guinée, Sénégal, et avoir été formé par mes profs, mes enseignants, mes maîtres de percussion. C'est une musique qui vient rejoindre les racines de l'humanité. Et c'est pas seulement les rythmes africains qu'on explore non plus dans cet ensemble, mais c'est les rythmes et les chants qui viennent connecter à nos racines, à la terre, à la communauté et à la simplicité de vivre ensemble qui me passionne le plus. Et donc, c'est ces cultures-là dans lesquelles on baigne et on partage la joie de vivre, d'être ensemble, d'écouter et exprimer.
Wow, merci. C'est vraiment une belle façon de l'expliquer. Pourquoi toi t'as choisi de tous les instruments, sept instruments comme?
En fait, le djembé, c'est l'instrument que je joue ici. C'est un instrument qui, selon les peuples de l'Afrique de l'Ouest, ils disent que le djembé c'était le premier téléphone, parce que anciennement, pour communiquer de village en village, il n'y avait pas de téléphone comme on en a aujourd'hui, soit avec câble ou même sans fil. Il y avait soit leur voix, et tu peux imaginer essayer de parler au village d'à côté, essayer de transmettre un message. C'est pas facile juste avec nos voix. Donc, le djembé porte les messages et peut communiquer. Donc, patapa, c'est différent que kodogo, qui est différent que guntapa. Et donc, chaque son du djembé va apporter des syllabes, des significations différentes pour transmettre des messages. Et c'est un instrument qui est quand même bien connu en Amérique du Nord puis dans le monde occidental. Et moi, initialement, j'avais envie de créer un ensemble avec le sabar, qui est un instrument qui est beaucoup moins connu, mais qui vient du Sénégal. Et moi, j'avais une grande appréciation pour cet instrument, mais j'ai choisi le djembé parce que les gens connaissent le djembé. J'ai envie d'inclure autant de gens que possible. Et la majorité des personnes connaissent le djembé.
Wow! Comment tu t'es rendu ici en Sotine pour faire ça? Comment tu es rendu ici?
Wow! Aimerais-tu la version courte ou la version longue?
Vraiment courte.
Ah, parfait. J'habitais à Boston et à New York avant en tant que musicien professionnel à la batterie ou la percussion. Et pendant le temps de la pandémie, cette fameuse période, j'ai eu l'envie d'être dans la nature plus que dans une grande ville. Et c'est là où je me suis retrouvé à venir au Canada et au Québec. Et finalement, après une longue histoire que je pourrais raconter un autre moment, je me suis retrouvé à Sutton.
Wow, merci. Juste une dernière question. Comment t'es formé le groupe de personnes comme?
Ouais, bonne question. Ça a commencé par, de mon côté, je partageais des ateliers vraiment de temps en temps, une fois ou deux, trois mois, pour les gens qui s'intéressaient. Et de fil en aiguille, il y avait de plus en plus d'intérêt chez les gens de la communauté, au point où une fois par mois, une fois ou trois mois, c'était pas assez. Les gens voulaient que se retrouver faire les percussions à chaque semaine. Et donc, j'ai commencé à créer un rythme de rencontre plus régulier. Et maintenant, on fait chaque jeudi soir des ateliers ouverts à toute la communauté, tous les âges, tous les niveaux. Les gens qui s'intéressent à apprendre ce vocabulaire et l'expression par le tambour. Et donc, chaque jeudi soir au Temple Cœur, je guide les ateliers de djembé, les percussions du monde.
Wow, c'est beau. Merci de votre temps.
À la prochaine, Nour.
Is a mirror that I see. I often find blessings that are under disguise, under disguise. The way has been made to have faith is my vow to you. The steps I will take are yours to choose. Yes, I bow to you. Yes, I bow to you. So convincing they could make me blind, but not this time. Come what may, I receive lessons made just for me. Hard times I often find blessings that are under disguise, under disguise.
C'était Blessed par Patrick Simard, un incroyable artiste de la région à découvrir. On va continuer les entrevues avec Fanny Rousse, qui dirige La Route des artistes.
Alors moi, c'est Fanny Rousse, je suis directrice générale et artistique de Route d'artistes. J'ai depuis toujours été curieuse d'aller voir des spectacles d'artistes que je ne connaissais pas. Puis d'aller dans des petits lieux, des petits bars, des endroits que j'allais découvrir pour écouter les artistes. Et puis, plus tard, j'en ai fait mon métier. Donc, aujourd'hui, j'organise des shows intimes pour inviter les gens à venir découvrir des artistes émergents en tout un état en intimité.
Super, merci d'être là avec nous aujourd'hui sur notre épisode. On parle de communauté d'artistes et de collaboration. Pour toi, vous collaborez avec des artistes de tout type. Quelles seraient tes recommandations pour les meilleurs types de collaboration entre institutions puis entre artistes?
Au fait, pour les artistes, on a énormément de collaborations parce que n'importe qui peut, au même moment, qu'il faut qu'il aime les arts, là, ça c'est sûr. Mais tout le monde, dans le fond, nous, on fait des spectacles de salon directement chez les gens, donc chez eux, ou ça peut être avec des bibliothèques, dans des petits cafés. Donc, ça peut être dans différents lieux ouverts au public ou plus privés. Donc, n'importe qui a de l'intérêt envers la visite du conte, du slam, de la poésie, peut accueillir un artiste à la maison. Puis nous, autres artistes, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le contact avec l'artiste, puis on amène le spectacle professionnellement dans ces lieux-là.
Wow! C'est tellement une belle occasion de découvrir des nouveaux artistes. Et je pense que ça aussi a un impact sur les jeunes. Comment est-ce que vous travaillez avec les jeunes à Route d'artistes?
Mais au fait, souvent, les gens qui accueillent un spectacle à la maison, il y a souvent des enfants, donc souvent des familles. Puis que c'est important même pour ces gens-là que d'emmener la musique dans leur salon, puis ils trouvent ça intéressant que les jeunes, justement, ils vont voir de la musique. Donc ça, c'est vraiment trippant. Ça fait 10 ans que je me promène à travers le Québec puis que je vais dans différentes maisons, puis dans différents lieux, parce qu'on va aussi dans les églises. Donc, c'est tous des lieux, exemple, qui sont ouverts à tout le monde, tu sais, autant les aînés, autant les plus jeunes. Puis c'est toujours des spectacles qui sont pour un large public. Il faut juste être ouvert d'esprit puis aimer découvrir des artistes. Donc, les jeunes sont très, très curieux par la technicalité aussi, pose des questions, c'est quoi ta guitare, c'est quoi le clavier. Donc, ils sont très curieux. Puis au début, quand ils sont plus petits, ils vont rester souvent pour une ou deux chansons. Après ça, ils vont partir jouer au sous-sol. Puis ils reviennent vers la fin de la soirée pour écouter une dernière chanson. Puis il y en a que ça fait 10 ans que je vais chez eux quasiment à chaque année avec des spectacles. Donc, je peux les voir grandir. Puis je vois qu'il y a de l'intérêt. Qu'eux-mêmes, ils jouent de la musique, qu'il y en a un qui s'en va justement pour sa technique sonore, qui est intéressé par ça. Donc, je trouve que c'est super important de mettre accessible les arts pour les jeunes.
Mm-hmm. Oui, c'est tellement important de leur ouvrir l'esprit, c'est ça, puis de leur donner des occasions de découvrir, dans le fond, des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne savent pas qui existent. Et qu'est-ce qui s'en vient pour Route d'artistes cet été?
Ben, l'été, on est en collaboration avec le Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, c'est notre programmation dans l'univers de Route d'artistes, les apéros au jardin. Donc, c'est une programmation qui est gratuite en forme de 4 à 7, où est-ce qu'on propose un paquet d'activités, de la musique, des visites guidées de l'exposition qui est en ce moment de Niki de Saint-Phal. Il y a des ateliers d'art aussi, donc il y a de la nourriture puis un bar. Donc, c'est une manière festive, gratuite et accessible à tout le monde de venir assister à ces événements-là puis de consommer de l'art de toutes sortes de milieux, en fait.
Wow, super. Merci, Fanny. C'était vraiment un plaisir de parler avec toi.
Ça fait plaisir. Merci à toi.
Avant que je te laisse, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter qu'on peut réinsérer dans notre entrevue après?
Ben, que si les gens ils veulent sont intéressés par accueillir un spectacle, sont curieux de savoir comment ça fonctionne, ben, ils peuvent écrire à info@routedartiste.com, visiter le site Internet, ils peuvent avoir l'adresse et le téléphone directement. Donc, on se met en contact dans ce cas-là, puis j'envoie un formulaire de remplir.
Okay.
Donc, tout le monde à travers le Québec, c'est possible d'accueillir un spectacle à la maison.
Wow, quelle chance! Puis je veux te remercier aussi parce que même à l'École d'art, tu nous as permis de rencontrer des artistes incroyable.
Oui, c'est ça.
Je te remercie beaucoup d'avoir été ce lien et ce pont entre, c'est ça, les artistes et leur public aussi.
Oui, ben c'est ça, c'est notre mission de créer un pont entre le public et l'artiste, puis de créer un moment qui est vraiment unique, puis qui reste comme un souvenir inoubliable.
Mais c'est vraiment ça que j'ai vécu l'an dernier avec la performance de Route d'artiste. Alors, je te remercie beaucoup.
Merci à toi.
On va rencontrer maintenant Stanley Lake et Almut Ellinghaus. Stanley, potier et fondateur du célèbre Tour des Arts, et Almut, artiste et chanteuse, évoquent avec passion comment leurs projets mettent en avant l'esprit collaboratif des artistes de la région.
Amazing. Well, thank you for joining us here on the show. We're talking about the creative community. I know both of you have been so involved in starting the creative community organization, many organizations that are beloved to people in the area and beyond. Could you tell me a bit about the different works that you do?
I was originally from Cleveland, Ohio. Mm-hmm. Immigrated to Quebec in 1974. And was teaching at a university there, head of the pottery department.
Cool.
And just felt, for political reasons, and that I wanted to leave the United States.
Yes.
And so just stumbled upon the property here with my ex-wife, and we purchased it and established a pottery in 1974. Yeah.
And I'm originally from Germany, and I come actually from theater with masks and puppets. And I followed my first husband to a dirt road in Sutton, which was an interesting experience for a city kid. This is now, 35 years ago or something. I don't do theater anymore. I do sculpture. And I sing mostly jazz.
Yeah, I had the idea of a studio tour, which would be 35 years ago, came about through a conversation with Liz Davison and Maya Lightbody. And the three of us formed a company called the Really Useful Craft Company. So we promoted some shows, but the real nugget of the idea was to create a studio tour of studio artists and artisans in the region to promote both the artists, to create a venue for them to sell their works, but also as an educational component to basically to let, in particular, younger children know when they came to visit the studios that this, if they had artistic inclinations, that this would validate their feelings and thoughts of, and also give them an idea that they too could have a studio in which they could create their work. And that's still a main component of what I wish to do. What's interesting, just a couple the year before perhaps, I had older people, maybe in their 40s and 50s, who had a profession, and by seeing our studio, I remember this one woman just staring, and we finally staring at the space, staring at the work for quite a while. So I engaged her in conversation, and it was like, for her too, it was an insight into what she deep down wanted to do. She'd been in a different profession, and her passion was to be creative. She had, I forget specifically what she was doing, and it just said, I'm going to do this. I think she was in New York City, and she's thinking, yeah, I've got to create this, I got it. So for her, again, for that situation, it was an educational thing of, here we are, this is what we do. Hopefully you'll get inspired by that.
Yeah, that's amazing. And I didn't realize that it was also started with that intention of reaching out to youth.
Absolutely.
And showing them a different way forward, you know,
yeah,
like outside of the sort of more stereotypical professions that you can be
exactly
an artist, you can be an artisan, and you can be really successful doing that.
Yeah, I think that's critical for what we're trying to do.
Amazing.
Yeah.
Great.
And also we started as just 12 studios, mm-hmm, with a piece of paper with a little hand-drawn map. Technology was quite different 35 years ago.
Just fax it.
And within the first weekend.
Prefax. Hand-drawn.
Prefax, hand-drawn.
Copy machines, yes.
Yeah. So it was quite, the first year of it was very impressive, the turnout.
Wow.
Because my fear, which is a really good lesson, my fear was I had been doing a studio sale during the same time period for probably 10 years prior to the Tour des Arts being created. And I would earn a certain amount of money, which was critical, people coming to my studio. Then this idea of, well, let's open this up that same time period to 10 studios. And my fear was, oh, mon dieu, I'm going to diminish my revenue by one-tenth, or I'll have one-tenth what I normally get, because there'll be this competition amongst other studios. But instead, what came to fruition was, even with the first weekend, I did better than my normal 9 days.
That's amazing.
And what it showed me was it's the idea of a three-ring circus versus a one-ring circus. So the more rings you have, the more people you will attract. So the idea was then became, you know, the more magnets we have, the more people will attract, and the better we'll all do, which is proven quite true. Except the marketplace will also dictate, going off in a different direction, dictate how well your product will do. So it's a proving ground, too.
Oh, that's incredible. And it really kind of goes to the theme of that's been emerging from a lot of these conversations around community, of the spirit of collaboration over competition. Yeah. And that's what you're saying in your experience, right? Like, it actually benefits.
I've never felt the competition. I've never felt that word being bantered around in our circle in both the Jazz Festival and the Tour des Arts. It's more cooperative.
Beautiful.
And it's more a cooperative venture where many different people give their input and their help and their skills to create the event and create the success of the event.
For this region, there's a lot of communication, and if there is not, then we all try to create more communication to make sure that we don't need the competition thing.
Yeah, so it's like the synergy.
It's a very exciting experience to get to know the other artists. It gives us all a chance. We can't really see each other's studios, although we make attempts, but we are also busy before the tour. But it is a community, and it's a nice supportive community. In the 70s, 80s, it was a very small community where everybody knew each other.
Mm-hmm.
Now that's expanded.
You've worked a lot engaging young people in different ways, right? In the arts, in visual arts, in music. Do you have any other ways that you believe are really effective in bringing youth and inspiring them to pursue careers in visual arts or music?
Well, with the jazz, and Alma can talk about the Tour des Arts, but with the jazz, certainly we, funding permitted, want to go into the schools, the elementary, primary schools, and offer two programs, the history of jazz, basically presented by the Dixieland group, so early jazz, and we lead on into different genres of jazz.
Mm-hmm.
And so that's a primary, again, the hope is that one person in that room will say, whoa, I want to play the tuba, or I want to play the trombone, whatever, that they'll be excited.
Outreach.
Critical, because, you know, the music programs are, all the arts and music programs, you know, are cut back.
Yes.
So in that aspect, we want to do that more, we just need funding. So to do that, and the Tour des Arts, I guess you could talk about that.
Well, I would say exposure is a big one.
Okay.
And for me, what's also important, I remember so often hearing from kids, I did this wrong, or I did it badly, or this is how you have to do it right. And I think in arts, for me, the biggest thing to learn is you have to discard the idea of wrong. In order to explore, you have to allow yourself to fail, to go wrong, to be embarrassed, to be laughed at. You know, it's just part of the deal. And at best, you learn to laugh along or to laugh at yourself, to learn, and like making a mask coming from theater, a mask for theater. You want something that has expressions from different expressions from different angles, or rather allows for the juxtaposition of the body, the position, how the body sits to the mask, it creates a different impression and different expression. And so often when I model something, I have to remind myself, step away from it, look at it from a different angle, and it might not be what you thought it was. And then it's a question, am I okay with that? Can I follow that? Do I have the tools and the insights to be able to follow that? Or do I try to impose my first mm-hmm. idea, and am I successful yeah. or not? Mm-hmm. So this is for me a big part of the game. And I think this idea of there is a right way for certain things, mm-hmm. yes. Technique. technique, exactly. Mm-hmm. But unless you want to then change, go away from that. Yes, but the moment you come to exploration means that you will not necessarily be successful.
Right. Just to elaborate on that, there's two things. One, I had a drawing teacher, and she said, I'm not going to teach you how to draw. I'm going to teach you how to see.
Yes.
Which like is that. So, it stayed with me my whole life. Yeah. And the idea of wrong or right.
Yes.
So recently I had two nieces visiting, and the thing I wanted to impart on them was not to think that their work, I'll take it at a personal thing, my work is bad, but to look at the work, let's say for me, I will go into Almut's studio. She's a master of the face, the mask, and so if I am not getting something, rather than saying, oh, my work is not as good as hers, mm-hmm. you know, this comparative, competitive thing, mm-hmm, mm-hmm. I will go in and learn mm-hmm. from what she's doing, go back and try to do that, mm-hmm. to improve, as opposed to, this is terrible what I'm doing, mm-hmm. let's not do it anymore, mm-hmm. as opposed to, what can I learn from looking? And then try to apply that, what I've just seen.
To your own, in your own style, in your own way of doing things.
No matter, even in music, it's fascinating. The whole idea of jazz mm-hmm. is, you at some point you want to be original.
Yeah.
But it's like speech.
Yeah.
How do children learn speech? By imitating mm-hmm. their parents, the environment. So it's the same thing with jazz. How do you learn the idiom is by listening to the great masters and their licks, the little phrases that they use, learning those phrases, incorporating mm-hmm. them, and then doing your thing on top or integrating all of that.
Responding.
So that it becomes foundational, mm-hmm. what you're listening to, and then it becomes, you absorb it, and then hopefully you're putting out that plus yourself.
With your own take on it or your own story on it or something. Just using it to tell your own story.
So it goes back to foundation. You need that foundation.
Yeah.
And then you can, I remember teaching, and I had a student, he was from, he was a great dancer, jeweler, and potter at university, and I invited him to come in to give a demonstration because he had been trained in more of an Eastern approach to, which meant that he threw off-centered. As opposed to centering the clay, he would, and my students who had trained so hard and rigorously to get the centering done, know how to center, know what center is, create the pot. He came in and did, it was totally not centered. And my students were like, oh, well, he doesn't know. He doesn't even know how to center. He created a beautiful piece. And I said, he knows center so well that he can work off center. Which is a great, great revelation for everybody, including myself, you know, to verbalize it.
Yeah.
So.
Beautiful.
Yes, I think for me it's like the message you get from a Pilates course that everybody's doing the exercise, some are doing it in a much harder way, but everybody is working to their own max and need and ability.
Yeah.
And I guess that's for jazz, it's kind of the thing too. You all have that, you share the structure, but you do your own thing within it.
Love that.
Your own, I find that very beautiful.
And the musicians we play with are so accommodating.
Yeah.
You know, well, in the sense that some are very, very, very high-end, well-trained, and yet they'll embrace what your efforts. And they might talk to you a little bit about, you know, what you could be doing. So I'll take, you know, I'll take lessons. When I hear someone really great, I'll take lessons. I want them to listen to me. I want them to suggest what I could do differently. And it's very, very positive on my playing. So I can learn from them, but I can still play with them, and they're accepting. And they'll nod, oh, that was good. Yeah. Or they'll nod not. So it's interesting, but the acceptance is pretty, going back to competitiveness.
Yeah.
In that milieu, there's really not a lot of competitors. Do your job, know the form of the jazz song that you're playing.
And give each other space.
And give each other space and support harmonically.
Yeah. Near to me afire, it's no matter, darling, where you are. Making love to you day and night, night and day.
Ici en Estrie, on ne peut pas penser à communauté sans penser à l'incroyable Shelley Misner, une voix familière, animatrice de l'émission Cultivating Community à la radio communautaire CIDA 99.1 FM. Bienvenue Shelley!
Eh bien Shelley, je t'ai invitée ici, j'aimerais beaucoup qu'on discute de l'importance de la communauté.
C'est exactement ce que nous on est en train de faire actuellement, c'est à découvrir la magie à l'intérieur de tout le monde. Ben notre show, c'est une communauté qui cultivise ensemble, puis c'est avec mon collègue, mon quatre pattes Cash. Puis on apprend beaucoup d'un chien parce que il recevoir l'amour sans des conditions, sans avoir des mots, juste de lui laisser faire frotter puis donner de l'amour. On a beaucoup à apprendre dans ça. C'est une présence, puis ça dans la communauté, d'être capable d'être présent pour d'autres mondes. Pas obligé de jouer un rôle, juste avoir une présence, c'est un cadeau qu'on fait pour tout le monde.
Est-ce qu'il y a un côté de ralentir un peu notre rythme pour pouvoir observer, pour pouvoir faire ces connexions? Peut-être on se rend compte qu'on est toujours à la recherche d'un objectif. Et finalement, quelquefois, ce que vous me décrivez, c'est que l'objectif, ça serait juste d'être présent et d'être connecté avec les gens.
Oui, on va ensemble, mon chien puis moi, à l'école tous les matins pour recevoir les enfants, pour leur dire bonjour. On rentre dans la garderie. Les enfants qui arrivent dans la garderie, ils ont des journées assez longues parce qu'ils sont déposés très tôt puis ils sont ramassés assez tard. Donc, en arrivant, il est bienvenu, puis tous les enfants, il veut toucher, ils ont tous des noms pour lui, Cache, Cachy, Cachapou, plein de choses. Puis après ça, ben il sort dans le terrain, puis il fait des anges dans le jardin avec des enfants aussi. Puis après ça, les enfants, ils sont tous mis dans une ligne, lui, il les attend à la porte, puis chaque enfant qui rentre, il passe la main sur la tête pour lui dire bonjour. C'est vraiment, c'est la force d'une communauté. Plus qu'on est touché, plus qu'on peut connaître le monde dans notre village, mieux que c'est pour tout le monde. Puis j'ai appris aussi que ça fait défoncer l'orgueil parce qu'au début, j'ai été un peu insultée que les enfants, ils connaissaient tout son nom à lui, mais ils me connaissaient pas. Mais là, maintenant, je suis la mère de Cash. Donc, moi aussi, j'ai un nom puis une présence avec les enfants dans l'école.
Merci beaucoup d'avoir passé ce beau moment avec nous sur Portrait Vivant, une émission de l'École d'art de Sutton et de CIDI 99.1 FM en Estrie. Le projet est rendu possible par le gouvernement du Canada ainsi que le Fonds canadien de la radio communautaire.